exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Le week-end dernier a été meurtrier dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs villages du territoire de Beni, dans le nord Kivu, ont été la cible de rebelles, membres présumés des ADF. Pourtant, depuis le mois de mai, la province est sous état de siège. Une mesure exceptionnelle décidée, rappelez-vous, par le président Tshisekedi pour lutter contre les groupes armés. Concrètement, depuis 5 mois, les autorités civiles sont suspendues. Le pouvoir a été transféré aux militaires et aux policiers. Mais sur le terrain, les attaques se poursuivent et pour l'opposition, eh bien, l'état de siège est un échec. D'ailleurs, le député Jean-Baptiste Kasegwa s'est exprimé ce week-end. Il a dressé un bilan et il affirme que depuis la proclamation de cette mesure, 917 civils ont été tués dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, 463 autres personnes sont portées disparues et 142 villages ont été abandonnés. Une situation qui interpelle évidemment sur l'efficacité de l'état de siège. Faut-il, oui ou non, maintenir cette mesure exceptionnelle? On en parle ce matin durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 et vos commentaires postés essentiellement sur WhatsApp aujourd'hui. Vous êtes plus nombreux sur le WhatsApp que sur Facebook. En tout cas, j'en lirai quelques-uns évidemment tout au long de l'émission pour alimenter la réflexion. On commence avec vous, Didier. Bonjour.
Bonjour, Juan Gomez.
Vous êtes à Goma et vous disiez au Standard ne pas voir de résultats concrets depuis la proclamation de cette mesure exceptionnelle.
Ok, voilà, c'est ce que je disais tantôt, que c'est vrai, on a décrété l'état de siège, mais et on ne voit pas franchement les retombées positives par rapport au fait que les chefs de l'État aient décrété l'état de siège. Et depuis qu'on a décrété le soi-disant état de siège, il y a plus de tueries qu'auparavant. Il y a plus de problèmes. Alors, ça demandait qu'on puisse, avant d'aller encore plus loin, il fallait qu'on puisse peut-être se mettre d'accord, on puisse réévaluer, qu'on puisse restructurer ce soi-disant état de siège que moi j'appelle état de siège, vous voyez. Mmh. Alors, que de prendre en otage tout un peuple. Et on connaît la zone, on s'est situé physiquement la zone où ce soi-disant est dit. Parce que c'est à cause de ces problèmes de la sécurité qu'on a eu à décréter l'état de siège.
Mais pourquoi ? Mais j'entends Didier, j'entends vos attentes et visiblement vous êtes insatisfait des résultats et pour cause les attaques se poursuivent. Mais vous disiez l'état de siège, c'est une façon de nous prendre en otage. Pourquoi ?
Oui. On nous prend en otage parce qu'il n'y a rien qui marche. La raison pour laquelle on a décrété l'état de siège, franchement, on ne voit pas de changement.
Oui.
Au contraire, les choses sont en train de s'empirer. Chaque chose qui passe, ça s'empire, vous voyez. Alors, ça n'a pas de sens de continuer et de prendre la vie sur tout le plan, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan civil. On prend en otage tout un peuple, avec des violations massives des droits de l'homme pendant ces soi-disant états de siège, au lieu de continuer dans ce sens-là, alors qu'il n'y a pas de résultats positifs.
Oui, l'impatience se constate dans les propos des auditeurs sur WhatsApp. Il y a Bienvenue qui nous dit, il nous écrit de Butembo, il nous dit « Cette situation prouve la faiblesse de notre armée. À ce rythme, la population va finir par se révolter, car elle préfère faire confiance aux forces d'autodéfense qu'à l'armée. L'état de siège est une monumentale perte de temps, un échec lamentable. » Didier, merci infiniment de votre témoignage. Bon courage à Goma. Omar est à Beni, justement. J'espère que le réseau téléphone va passer pour qu'on puisse bien entendre Omar qui est directement sur place. Bonjour Omar.
Bonjour Juan. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous confirmez les propos de Didier à l'instant qui disait depuis l'instauration de l'état de siège, les attaques se sont multipliées?
Non mais il faut relativiser parce que c'est vrai, nous avons eu des attentes lorsque l'état de siège a été décrété. Mais nous devons aussi comprendre que l'ennemi n'est pas aussi idiot pour se laisser la tête coupée. Il faut à tout prix qu'il démontre qu'il est invincible. Et nous continuons à croire que malgré ce qui s'observe, parce que ce n'est pas pour autant que ce qui s'observe aujourd'hui est une invention, est une nouveauté. nous avons passé 7 ans de série de massacres à Beni. Et lorsque l'ennemi est attaqué aujourd'hui, et lorsqu'il est pris par ces opérations de l'état de siège, naturellement, il doit faire voir à l'opinion qu'il est invincible, que rien ne va, et il va amener la population à se désolidariser de l'autorité. Oui. Mais ne perdons pas de vue, même si nous voudrions bien sûr que les autorités fassent davantage, parce que ce qui est en train d'être fait jusque-là n'est pas encore l'idéal recherché. Il faut aller de l'avant, il faut avoir une logistique imposante, il faut une présence militaire imposante.
Mais
ici.
Omar, justement, mais, vous qui êtes à Beni, vous la voyez cette présence militaire? Vous voyez les FARDC dans la rue?
Non, on peut se dire qu'il y a à relativiser. C'est vrai, nous aurions voulu une présence aussi imposante que celle-là. Nous aurions voulu une logistique aussi imposante que celle-là. Des avions, des hélicos ou des avions de chasse, on voudrait qu'ils soient ici. Mais nous ne pouvons pas dire que déjà, l'état de siège, c'est parce qu'on a l'administration militaire, l'administration civile valait mieux que ça. Parce que si l'état de siège a été décrété, c'est parce qu'effectivement la situation pourrissait.
Oui.
Et il n'y a pas encore que... On ne peut pas se dire aujourd'hui que, alors qu'il y a l'administration militaire de 5 mois, la situation était meilleure il y a 10 mois ou il y a une année. Cette monotonie à laquelle on est en train d'assister, et nous voudrions que les efforts soient consentis, que nous, la population et l'armée et l'autorité politique parlions même langage, parce que nous sommes confrontés au terrorisme et le terrorisme fait toujours voir à la population que l'autorité a failli, et c'est effectivement les pièges dans lesquels nous pouvons tomber si nous ne sommes pas avertis.
Ouais. Y a Kaumba qui nous écrit de Goma, il nous dit l'état de siège est venu empirer les choses, le président Tshisekedi a sauté les étapes, car avant d'instaurer l'état de siège, il aurait fallu réformer l'armée et identifier tous les infiltrés, car certains généraux et certains politiciens financent les groupes armés. Bagouma à Bukavu, lui aussi revient sur le problème de l'infiltration. Les ennemis, dit-il, cohabitent avec les militaires congolais, et chose grave, ce sont eux qui occupent de hautes fonctions dans cette armée. Vous êtes d'accord avec ce point, Omar? L'infiltration au sein de l'armée?
Parfois, nous avons toujours la culture d'insulter notre armée, d'insulter nos autorités. Nous croyons que nous le faisons mieux, alors que nous faisons les yeux de l'ennemi. Toute armée, face au terrorisme, a toujours des vulnérabilités. Et notre armée ne pourra pas faire exception. Mais nous nous disons, nous devons comprendre à quel ennemi nous faisons face. Et en le comprenant ici, nous allons demander à l'autorité politique et militaire, et nous, la population, chacun de faire sa part. Autrement, nous allons tomber dans les pièges de cet ennemi,
oui,
qui va nous opposer contre notre armée, nous opposer contre nos autorités, et nous allons être... Oui.
Chacun doit faire sa part, comme vous dites. Le gouvernement a appelé à plusieurs reprises les populations à collaborer avec les FARDC. Visiblement, ce n'est pas encore le cas. Omar, je vous interromps. C'était très intéressant de vous avoir, et merci infiniment de nous avoir contactés de Beni. Merci de votre confiance. Lionel, alors vous êtes à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour Lionel.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous.
Loin de ces deux régions les plus instables de votre pays, mais malgré tout, vous suivez l'application de l'état de siège, et pour vous, incontestablement, c'est un échec.
Exactement Juan Gomez, je suis loin, mais en tout cas, spirituellement, je dirais, mon cœur est là-bas, parce que j'ai des frères aussi dont la situation m'intéresse directement. Excusez-moi de revenir un instant sur les propos d'Omar tout à l'heure, mon prédécesseur. Et il ne faut pas défendre les autorités, elles sont là pour nous sécuriser. Et les chefs d'État, d'ailleurs, depuis son avènement en tête de ces pays, ne fait que promettre de sécuriser cette partie du pays. Alors, elles sont là pour ça, elles doivent le faire, et il n'y a pas d'excuse pour ça. En matière de sécurité et de gestion, il n'y a pas d'excuse. Si ça ne marche pas, il faut peut-être laisser la place à d'autres personnes.
J'irai bien sur... Et en même temps, excusez-moi, Lionel, le gouvernement, on est bien conscient, j'ai le souvenir du porte-parole du gouvernement lors d'une conférence de presse dire ça fait 20 ans qu'on a tout essayé, on n'avait pas essayé l'état de siège, donc voilà, maintenant on essaye et on n'a plus d'excuses. Donc au moins, et je me fais l'avocat, on va dire, du gouvernement, au moins le gouvernement a le courage d'appliquer une mesure qui jusqu'à présent n'avait pas été mise en avant.
Je suis tout à fait d'accord avec vous et ça ne coûte rien en tout cas d'essayer. Le gouvernement avait essayé l'état de siège. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut se regarder en face et pour se dire, bon, l'état de siège n'a pas du tout fonctionné et que ça ne sera pas le vrai remède pour nous faire sortir de cette crise, puisque depuis que cet état de siège a été installé, c'était le 6 mai dernier et jusqu'aujourd'hui, nous sommes, excusez-moi de parler des chiffres, nous sommes à 917 civils tués. Il faut dire que ça ne fait qu'augmenter alors que l'état de siège a été décrété et pour restaurer la paix de cette partie, j'ai l'impression de dire qu'il ne s'agit plus d'état de siège, ça devient état de crise, état d'insécurité. C'est ce qu'il faut maintenant se regarder et s'accepter tout simplement. Le chef de l'État, lors de son discours à la tribune des Nations Unies, il a dit il ne retirera pas l'état de siège dès que ça ne va pas résoudre le problème pour lequel l'état de siège a été instauré.
Oui, il a dit l'état de siège ne sera levé que lorsque les circonstances qui l'ont motivé disparaîtront. Voilà les propos du président Tshisekedi dans son discours à l'Assemblée Générale de l'ONU. Vous dressez un bilan très négatif, Lionel. Vous citez le nombre de morts, effectivement, depuis la mise en place de l'état de siège. Il faut aussi voir le bilan dressé par l'armée. 120 combattants neutralisés depuis l'instauration de l'état de siège. 160 de leurs collaborateurs arrêtés, plusieurs matériels de guerre saisis. Donc en face, il y a quand même un bilan, Lionel. Peut-être insuffisant, mais l'armée ne se croise pas les bras.
Démanteler tout ce groupe rebelle, ça a toujours existé Juan Gomez, mais le problème c'est que la partie soit totalement, entièrement ultra restaurée, c'est ce que nous voulons tout simplement, ça ne doit pas être pour dire on a neutralisé alors que ce sont des civils qui sont tués, ce sont nos frères, tout à l'heure au début je le disais, nous avons des frères de ces côtés de ce pays, donc ça doit toujours nous inquiéter. Bon. Mais moi je voulais proposer
au gouvernement. Alors très vite, excusez-moi Lionel, allez-y, une proposition.
Absolument, une seule proposition, comme l'état de siège est avoué à mon humble avis à l'échec, il faut peut-être instaurer penser au dialogue. Moi, je l'ai toujours dit. Je l'ai vu récemment dans nos pays voisins, au Tchad, par exemple, je citerai. Et penser au dialogue et se mettre autour d'une table pour essayer de parler avec ces groupes-là. Peut-être que la solution viendrait. Puisqu'on a essayé avec des offensives, on a essayé des forces, mais ça ne réglait pas la situation.
Donc, envisager un dialogue avec les groupes armés, Lionel. Merci infiniment de nous avoir appelé. Bonne journée à Kinshasa. Faut-il, oui ou non, maintenir l'état de siège, cette mesure exceptionnelle qui a été reconduite à 9 reprises depuis le mois de mai, puisque les députés et les sénateurs doivent, selon la Constitution, voter l'état de siège tous les 15 jours. Bonjour Léonard.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs des récits.
L'état de siège est-il efficace selon vous ?
Tout à fait inefficace, mais je vais, comme Omar, relativiser certaines choses. Il faut dire que le Nord Kivu et la province de l'Ituri sont des provinces particulièrement meurtrières depuis plusieurs décennies. Et le fait que le président de la République ait pris ce courage d'instaurer l'état de siège est une bonne chose. Mais je note quelques faiblesses dont il faudra tenir compte, c'est notamment l'instauration de l'autorité de l'État. Devant chaque village, devant chaque ville conquis, je pense que le pouvoir devrait s'activer à renforcer la présence de l'État dans ces contrées. C'est pour justement barrer la route à l'ennemi. L'autre difficulté que je vois avec l'état de siège, c'est notamment lorsqu'il y a des redditions. Il faudra prévoir des conditions de réinsertion des combattants qui sont souscripteurs du processus DDR, donc du désarmement de la...
Désarmement, démobilisation, réinsertion.
Démobilisation et réinsertion. C'est très important. Parce que, vous voyez, lorsque vous faites de la reddition et que les conditions économiques sont difficiles, les conditions de réinsertion sont difficiles, il y a des tentations à pouvoir reprendre les armes. La difficulté que je peux noter également avec l'état d'urgence, c'est que nous sommes face à un ennemi que je peux dire invisible. Nous sommes face à une guerre asymétrique de type guérilla. Donc ce sont des personnes qui, la journée, ce sont des civils, mais la nuit, elles attaquent pendant que tout le monde dort. Vous voyez, c'est très difficile. Une autre proposition que je devrais faire, c'est de pouvoir recourir à la mise en place d'une force spéciale. Une force spéciale qui doit également être appuyé par la communauté internationale. Parce qu'il faut le dire, la RDC fait face à un terrorisme, mais je ne vois pas assez d'implication de la communauté internationale.
Excusez-moi, la MONUSCO est sur le terrain, 14 000 hommes de mémoire, ou 15 000 hommes, je n'ai plus les chiffres exacts, hein, très honnêtement. Mais voilà, vous avez un effectif très important de casques bleus déployés sur le terrain.
Oui, oui, vous allez dire que la MONUSCO est sur place, mais il faut dire que la MONUSCO a montré ses limites, notamment dans l'appui des FARDC, oui. Dans la lutte contre le terrorisme. Il y a même certains éléments de la MONUSCO qui ont été cités comme impliqués dans les pillages.
Parce donc il faut créer une force spéciale qui viendrait appuyer donc la MONUSCO. Je vous interromps, Léonard, vous êtes tous très bavards ce matin, je vois bien que le sujet vous tient à cœur. On parle de votre vie quotidienne, évidemment, et c'est normal, vous avez besoin de temps pour nous décrire la situation. C'est vous qui la vivez, vous êtes mieux placé évidemment que moi pour nous décrire votre quotidien. Il nous reste 5 minutes, il y avait encore des dizaines d'auditeurs. Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour monsieur Han.
L'état de siège n'a rien apporté, disiez-vous au standard.
Vraiment, c'est un échec total par rapport aux missions qui ont été assignées à cet état de siège, c'est-à-dire la restauration de la paix, de la sécurité et de l'autorité de l'État. Tout ça a été un fiasco et vous avez des rebelles étrangers, ce sont des rébellions étrangères, nous sommes devenus un dépotoir des rébellions étrangères qui opèrent dans nos territoires. Vous savez, au niveau des propositions, on pourrait avoir 2 propositions sur le plan interne. La précarisation des populations, surtout des jeunes, a fait à ce que beaucoup de jeunes n'ayant pas d'emploi adhèrent un peu, sont recrutés par ces rébellions. Hein, sont recrutés par ces rébellions. Et sur le plan extérieur, il faut une diplomatie au niveau de l'extérieur. Il faut que les Ougandais fassent aussi un dialogue inter-Ougandais avec leurs rebelles.
Oui, les rebelles de l'ADF. Vous parlez des rebelles de l'ADF.
Oui, de l'ADF. Et aussi les Rwandais aussi. Comme vous avez le Nord Kivu, vous avez les Interamo et Consa, il faut aussi des négociations au niveau de ces pays-là. Nous, on nous a forcé à faire la paix avec le RCD, avec le M23. Mmh. Il faudrait aussi que... Là, c'est pas... Il faudrait pas...
Le M23, avant d'arriver à la paix, il y a eu des combats et la guerre a été remportée militairement face au M23. Mais enfin, ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Donc, vous préconisez, Jean-Pierre, le dialogue. Le dialogue et surtout que les pays voisins, notamment l'Ouganda, puisque vous l'avez cité, organisent un dialogue avec les ADF. Pourquoi pas ? Effectivement, c'est une proposition qui est sur la table, hein, depuis très longtemps. Peut-être pour terminer, Emery, en 2 petites minutes. Bonjour Emery.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Il faut continuer à faire confiance à l'armée congolaise, disiez-vous.
Et oui, je pense que je rejoins Omar dans ce qu'il a dit tout à l'heure. Il faut soutenir nos forces armées. Parce qu'il a été quand même démontré, justement, vous avez donné les bilans des 120 rebelles neutralisés et toutes les arrestations, mais il a été aussi constaté que les éléments qui composent les ADF Nalu sont en grande partie des jeunes Congolais. Donc il y a des complicités au niveau local qui, il faut le dire clairement, mettent à mal le processus de pacification de cet espace géographique.
Mais complicité locale, excusez-moi, complicité locale à quel niveau ?
Je veux dire, quand ce sont la plupart des jeunes gens, des Congolais qui composent cette ADF Nalu, ce sont des gens qui connaissent bien le coin, qui connaissent bien le territoire. Et c'est une guerre asymétrique pour une armée habituée, qui n'est pas habituée à ce genre de situation. C'est très difficile de se retrouver dans ce genre de situation de combat et tout ça. Donc il faut, pour moi, parmi les solutions, parmi les propositions,
c'est
ce qu'elle a dit, c'est créer des forces spéciales au sein de l'armée.
Bon, bah écoutez, créer une force spéciale, certains vous diront, Emery, encore faut-il déjà que l'armée soit réformée avant d'envisager la création d'une force spéciale. En tout cas, le débat est loin d'être clos. Merci infiniment à vous tous de votre confiance. Le débat se prolonge évidemment sur la page Facebook de l'émission. Demain, on parlera du Mali. Se dirige-t-on vers une prolongation de la transition ? Le débat est lancé.
Banque Atlantique, présente au Bénin, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, au Mali, au Niger, au Sénégal et au Togo, vous a proposé l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique. Grandir ensemble.
Et je vous laisse avec Caroline Paré. Bonjour Caroline.
Bonjour Juan.
Dans 10 minutes, priorité santé, c'est aujourd'hui la journée mondiale des rhumatismes.
Oui, une famille de maladies qui touche aussi bien les articulations, les os, les muscles, les tendons. Arthrite, arthrose, spondylarthrite ankylosante ou lombalgie. Comment distinguer ces maladies les unes des autres? Comment les prévenir, lutter contre la douleur, freiner leur évolution? Quels sont les derniers traitements issus de la recherche? Et comme tous les jours, on répondra bien sûr à vos questions.
Juste après le journal.